Bah, bonjour à tous. Et puis bah, moi aussi, je voulais remercier Gynéco Sans Frontières pour l'invitation. Je pense que c'est un plaisir d'être ici et de venir parler avec vous. J'espère qu'on aura un petit peu le temps d'échanger à la fin aussi, parce que l'intérêt, c'est pas seulement que nous, on parle, mais qu'on puisse aussi échanger, j'imagine. Je pense que c'est important qu'on puisse être ensemble, parce que je pense que nos différentes organisations sont complémentaires. Effectivement, l'idée de ce matin, c'est aussi de présenter des approches peut-être un petit peu différentes. Alors, j'ai l'honneur de passer avant Médecins Sans Frontières, quand même beaucoup plus gros que Médecins du Monde, mais on est sans doute un peu plus modeste. Mais je vais essayer de vous expliquer effectivement l'approche qu'on peut avoir sur la question de la mortalité maternelle. Alors, d'abord, je voulais vous expliquer un peu pourquoi on a décidé d'avoir cette approche-là. Alors, je vais essayer de ne pas me répéter, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Hein, donc, l'idée n'est pas de répéter les chiffres et le contexte. Mais malgré tout, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qui nous a interpellés et pourquoi, du coup, on a l'approche que l'on a aujourd'hui, en sachant que la question de la santé sexuelle et reproductive est une priorité pour Médecins du Monde depuis 2010, ce qui ne veut pas dire qu'avant, on ne faisait pas de la santé maternelle ou des interventions qui avaient pour but de réduire la mortalité maternelle, mais en 2010, on en a vraiment fait une priorité d'action. Donc ça a déjà été beaucoup dit depuis le début de la matinée. Je vais pas répéter, mais je vais peut-être insister sur quelques chiffres. Donc effectivement, la mortalité maternelle, c'est essentiellement dans les pays en développement encore. On a parlé des zones de crise, donc les conflits, les zones où il y a des catastrophes naturelles, où il y a des déplacements de population importants. Et ça, c'est aussi important de le noter. 60% des décès maternels aujourd'hui, on estime, sont dans ces zones-là. Donc aussi avec toutes les conséquences et les barrières à l'accès aux soins qui peuvent exister dans les zones de crise. Et on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est quelque chose sur lequel on veut essayer de travailler de plus en plus pour essayer de mettre en place ce qu'on appelle le dispositif minimum d'urgence pour qu'un minimum de prise en charge en santé sexuelle et reproductive puisse être disponible dès le début de la crise. Et dans les crises, il y a énormément de priorités, évidemment, et c'est pas évident de faire en sorte que la santé sexuelle et reproductive fasse partie de ces priorités, mais je pense que de plus en plus, on reconnaît l'importance de travailler dans les zones de crise, parce que les femmes sont aussi enceintes dans les zones de crise et ont aussi besoin de contraception pour éviter une grossesse non désirée, peut-être d'autant plus dans ces zones-là quand elles ne veulent pas avoir un enfant à ce moment-là, parce que ce n'est pas l'idéal pour eux, pour elles et pour leur famille. Et ça, on a beaucoup parlé des adolescents, mais évidemment, je pense qu'on a peut-être un peu oublié les adolescents. Quand je dis « on », c'est au niveau international, mais aussi Médecins du Monde. On avait un peu oublié les adolescents dans nos projets. Et je pense que maintenant, on essaie de les réintégrer de plus en plus. Ça nous met en avant aussi peut-être les difficultés particulières de travailler avec les adolescents, les barrières spécifiques que peuvent rencontrer ces adolescents pour accéder aux services. On a parlé un petit peu tout à l'heure aussi de la posture et de l'attitude des professionnels de santé envers la population en général, envers les femmes. Mais pour les adolescents, la posture, elle peut être encore plus négative et l'accueil dans les centres de santé ou dans les structures de santé n'est pas forcément très favorable aux adolescents pour plein de raisons. Donc c'est aussi un focus qu'il faut faire. Alors je pense que vous connaissez tous le petit diagramme des causes principales de la mortalité maternelle qui n'a pas beaucoup évolué ces dernières années. Mais je voulais effectivement faire un focus sur la mortalité maternelle associée aux avortements à risque, car c'est certainement quelque chose qu'on a aussi un peu oublié dans les politiques nationales de santé, dans les politiques internationales, en sachant que oui, la prise en charge des complications des avortements à risque fait partie normalement des soins obstétricaux d'urgence de base et des soins obstétricaux d'urgence complets. Mais moi, quand je vais dans les différents pays ou dans les différentes structures de santé, et quand je demande alors les soins obstétricaux d'urgence, c'est bon, c'est une réalité dans vos structures de santé, ils disent oui, oui, pas de problème. Et la composante sur l'aspiration manuelle endo-utérine, est-ce qu'elle est présente? Ah, ben non, celle-ci, on l'a un peu oubliée. Donc voilà, c'est aussi une réalité, c'est encore quelque chose sur lequel il faut travailler. Alors, à la fois d'un point de vue technique, à la fois d'un point de vue de la formation initiale, parce que c'est encore très peu présent dans les formations initiales, mais aussi évidemment dans tous les tabous qui sont associés à la problématique des avortements et des avortements à risque. Il faut savoir qu'on a fait, Médecins du Monde a fait des études sur les déterminants socioculturels des grossesses non désirées, des avortements à risque l'année passée. On a eu un colloque la semaine dernière qui présentait ces études et qui débattait sur le droit à l'avortement. Et ces études ont bien montré toute la difficulté pour les femmes d'accéder aussi aux soins post-avortement dans de bonnes conditions, sans jugement de la part des professionnels de santé. Et on notait que dans les services de santé, quand il y a une femme qui vient pour une hémorragie du postpartum et une femme qui vient pour une hémorragie suite à un avortement à risque, celle qui vient pour l'hémorragie suite à un avortement à risque va souvent attendre beaucoup plus longtemps que les autres et va souvent avoir des jugements... et pas être reçu dans de bonnes conditions. Donc ça, Luc de Bernis en a parlé, hein, des piliers pour réduire la mortalité maternelle, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, mais je voulais effectivement insister aussi sur, parce que c'est un peu mon rôle, je ne suis pas gynécologue, donc je peux un peu en parler, mais je voulais insister sur l'accès à la contraception. Les politiques internationales ont beaucoup insisté sur les soins maternels, l'accouchement assisté, les soins obstétricaux d'urgence, et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, il y a beaucoup à améliorer, mais c'est qu'un peu plus récemment que la question de la planification familiale, de la contraception, et je ne parle même pas de l'avortement, se sont intégrées dans les politiques internationales. Je crois que Luc de Bernis évoquait le partenariat de Ouagadougou, il y a quelques initiatives comme ça au niveau international qui ont un peu mis le focus sur la contraception. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Je pense, juste pour citer des chiffres, on cite plein de chiffres depuis ce matin, je ne sais pas si vous arrivez à tous les retenir, mais on estime que si on arrivait à faire en sorte qu'il n'y ait plus de besoins non satisfaits en contraception, alors c'est un rêve, hein, je pense qu'on est, loin de là, mais si on arrivait à faire en sorte qu'il n'y ait plus de besoins non satisfaits, on pourrait diminuer la mortalité maternelle de 90 000 décès par an environ. Hein. Alors, encore une fois, c'est des estimations et ce n'est pas si simple que ça. Mais donc c'est un élément extrêmement important. Et peut-être quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé encore ce matin, c'est la question de la morbidité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la mortalité maternelle. Les OMD, les ODD insistent sur la mortalité maternelle, mais on insiste peu sur la morbidité et sur toutes les autres conséquences pour la santé de la femme qui peuvent survenir suite à une grossesse ou suite à un accouchement, qui peuvent parfois être dramatiques pour la suite de la vie de la femme ou des familles. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte dans les services de santé, dans les politiques nationales de santé, etc. Je pense que vous connaissez mieux que moi quelles sont les conséquences, mais c'est vrai que les politiques nationales ont peu mis l'accent là-dessus. Et ce sur quoi je voulais insister aussi, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que les efforts se sont beaucoup portés sur la dimension santé maternelle. L'accès aux soins prénataux, l'accès aux soins obstétricaux, l'accès aux soins du postpartum, un accouchement assisté, évidemment. Mais peut-être on ne prend pas suffisamment en compte que la grossesse, elle survient dans un parcours de vie d'une femme, d'une famille, d'un couple. Qu'on ne prend pas suffisamment en compte le désir et la planification de la grossesse, parce qu'au-delà du fait, peut-être pas trop que je m'en rapproche, mais au-delà du fait de la question des avortements à risque, on sait aussi, il y a aussi des études qui montrent que si une grossesse est désirée, la femme va plus avoir recours aux consultations prénatales, au suivi de grossesse, va plus planifier aussi tout le suivi pour faire en sorte d'avoir un enfant en bonne santé et que sa grossesse se passe bien. Donc ça, c'est aussi un élément important. Et je pense que beaucoup, dans les consultations prénatales, on ne pose pas la question de si la grossesse, elle est désirée ou pas. On assume que la grossesse est désirée et on assume que c'est un élément positif pour la femme, pour sa famille. Et je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait que parfois, ça ne l'est pas. Alors parfois, ce n'est pas désiré, ce n'est pas planifié, ça ne survient pas au bon moment pour les personnes, ce qui ne veut pas dire qu'on va interrompre la grossesse nécessairement, mais ce qui veut dire qu'il faut peut-être prendre en compte aussi cette dimension-là pour la planification du suivi de la grossesse. Il faut aussi prendre en compte les conditions dans lesquelles survient la grossesse. On a parlé des situations de crise un peu plus tôt, mais on peut parler aussi de tout l'environnement familial qu'il peut y avoir. Est-ce que la grossesse fait suite à une violence aussi? Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont certainement à prendre en compte Je pense que c'est important, on a parlé du VIH un petit peu tout à l'heure, il y a eu, et maintenant on en revient, mais il y a eu beaucoup des politiques verticales ces dernières années. Maintenant on essaye d'intégrer plus les soins, et je pense que la consultation prénatale n'est pas seulement là pour faire le suivi de grossesse, mais elle est là aussi parce que c'est parfois la première fois qu'une femme vient dans un système de santé, et c'est aussi le bon moment pour aborder d'autres problématiques de santé, notamment de santé sexuelle et reproductive. Peut-être d'aborder la question de la contraception en postpartum, peut-être d'aborder la question des violences et de pouvoir être attentif aux signes qui pourraient survenir, je pense que vous connaissez ça mieux que moi, mais aux signes qui pourraient permettre d'identifier une situation de violence vécue par la femme, pouvoir parler d'IST, etc., etc. Donc je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Et ça va avoir un impact, évidemment, sur la grossesse, sur l'accouchement et... sur la santé de la femme et de l'enfant suite à cette grossesse. C'est pour ça qu'à Médecins du Monde, on insiste sur cette notion de continuum de soins en santé sexuelle et reproductive, pour dire que la grossesse, c'est une étape de la vie, mais que la santé sexuelle et reproductive, elle, comme on le disait, elle démarre à l'adolescence et elle se continue tout au long... on pourrait même la faire démarrer avant, mais... Et elle se continue tout au long de la vie des femmes, mais aussi des hommes qui ont aussi une santé sexuelle et reproductive par ailleurs. Et c'est aussi un élément important de reconnaître que les personnes, elles ont des droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Elles ont le droit de choisir quand et avec qui et combien elles veulent d'enfants, par exemple. Enfin, il et elle, d'ailleurs. Parce qu'on a fait, une étude en RDC, c'était assez drôle, et les jeunes hommes, les adolescents, ils nous disaient « Ah, mais oui, mais nous aussi, on a envie de savoir... comment faire en sorte de planifier les grossesses, parce que nous aussi, ça va avoir un impact sur notre vie si maintenant, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, notre partenaire va être enceinte. Alors évidemment, il y en a qui vont ne pas reconnaître la grossesse et qui vont s'enfuir, ça c'est l'aspect facile, mais tous ne sont pas dans cette optique-là, et ça va avoir des conséquences importantes sur leur vie aussi, donc je pense qu'il faut aussi, quelque part, réintégrer les hommes dans cette histoire-là, ce que l'on oublie parfois un petit peu aussi. Je regarde un peu l'heure. Et donc, ce sur quoi je voulais aussi insister, c'est qu'évidemment, la qualité des services de soins, elle est clé et elle est essentielle. Mais que si on veut améliorer la santé des femmes, si on veut réduire la mortalité maternelle, il faut aussi prendre en compte la question des barrières. Je crois que Fabienne parlait tout à l'heure aussi de la demande de soins et de quand est-ce que les femmes vont recourir à des services. Je pense qu'il y a tout un tas de barrières qui font que les personnes ne recourent pas aux services, et ce n'est pas parce qu'elles sont ignorantes ou elles ne connaissent pas l'intérêt de ces services-là, mais c'est parce qu'il y a tout un tas de barrières et un équilibre qu'il faut trouver au sein de la famille pour pouvoir recourir ou pas aux soins. Donc il y a évidemment les barrières géographiques, les barrières financières, on les a évoquées tout à l'heure. Il y a le coût des services, mais c'est pas, il n'y a pas que le coût des services, il y a aussi tous les coûts indirects, le coût du transport, le fait de, par exemple, être hospitalisé pendant une semaine, quelles conséquences ça a pour la famille, etc., etc. Donc il y a tout un tas de coûts indirects. Et la gratuité des accouchements, des césariennes, c'est très positif et c'est une avancée positive, mais ce n'est pas le seul coût qui est supporté par les familles. Il y a évidemment les barrières socioculturelles. Alors, le pouvoir de décision des femmes, c'est quelque chose de très important à prendre en compte, hein, évidemment. Parfois, le rôle de la belle-mère est aussi très important, hein, dans certaines sociétés. Il y a aussi les barrières légales et réglementaires. Il faut savoir, par exemple, qu'en RDC, la contraception n'est pas autorisée pour les mineurs. Alors, le système de santé contourne ça et donne quand même de la contraception aux mineurs, mais dans la loi, ce n'est pas autorisé jusqu'à ce jour. Alors, il y a des négociations pour faire évoluer la loi, mais quand même. Bon, ça, je vais avancer parce qu'on a déjà parlé. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est important pour nous, c'est effectivement de renforcer le continuum de soins. Alors, le continuum de soins, il est à la fois... dans l'espace, c'est-à-dire comment on renforce ce continuum de soins entre la communauté, et on parlait des approches communautaires tout à l'heure, et de qu'est-ce qui peut être fait en termes de services et de soins au niveau de la communauté. Je pense que c'est un vrai sujet sur lequel il faut travailler aussi. Les structures sanitaires de premier niveau, et on parlait des sages-femmes qui sont en première ligne, et ces structures, elles sont aussi en première ligne, et il faut qu'elles soient en capacité de répondre aux besoins et de pouvoir identifier quand elles doivent référer à l'hôpital de référence ou à la structure de référence. Mais il faut aussi qu'il y ait des possibilités de référence et d'évacuation entre ces différentes structures, ce qui est souvent une barrière importante. Et quand on parlait du chat tout à l'heure, je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis, c'est le continuum de soins tout au long de la vie des femmes. Et évidemment, la question de l'approche genre, de l'empowerment, des droits sexuels et reproductifs en transversal, c'est quelque chose de très important. Alors, je vais aller vite, mais à Médecins du Monde, on essaye depuis 2 ans maintenant de se concentrer sur quelques gaps pour nous du continuum de soins. Donc la santé des jeunes et des ados, hein, qui est un élément important. La prévention et la prise en charge des grossesses non désirées, qui est pour nous un gap dans les politiques de santé et dans le, à la fois au niveau international, à la fois au niveau national. Et la question de la santé sexuelle et reproductive dans les contextes de crise qu'on commence à renforcer maintenant. Donc, on parlait tout à l'heure de l'approche multisectorielle. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Alors évidemment, on ne fait pas tout. Hein, on a aussi des ressources limitées. Et on essaye de travailler en partenariat avec d'autres acteurs sur le terrain et notamment des acteurs locaux. Mais pour nous, dans l'approche de nos projets, ce qu'on essaie de développer, c'est d'avoir d'abord une meilleure appréhension des contextes et des déterminants de la santé sexuelle et reproductive, et pour ça, d'impliquer les différents acteurs. Alors, dans certains pays, on fait aussi des audits de décès maternel, et effectivement, c'est un outil très intéressant. On fait ça notamment en Côte d'Ivoire, et le gouvernement a décidé d'ouvrir dans le district où on travaille un deuxième bloc opérateur, parce qu'il y avait eu beaucoup de décès, du fait qu'il y avait un seul bloc et qu'il y avait des femmes qui, dans l'attente de la disponibilité du bloc, sont décédées. Donc, pour dire qu'effectivement, cet outil est extrêmement intéressant pour alerter aussi sur cette réalité-là. Évidemment, c'est d'améliorer la qualité de l'offre de services en accompagnant le système public de santé. C'est vrai que Médecins du Monde est plutôt au niveau primaire et en appui au système public de santé quand il existe, à travers la formation, l'équipement, le travail aussi sur les représentations des professionnels de santé, qui est extrêmement important. Mais on essaye aussi de travailler au niveau de la population et au niveau des usagers des services pour les informer, pour les sensibiliser aussi sur leurs droits et pour les impliquer dans cette démarche-là en essayant de mettre en place, alors on démarre, hein, c'est pas si simple que ça, mais aussi des procédures de redevabilité entre la population et les structures de santé. Et on associe souvent aussi à nos projets une composante de plaidoyer pour, à partir des réalités de terrain, alerter les pouvoirs publics pour faire évoluer le cadre légal, mais aussi la mise en œuvre des politiques publiques qui sont souvent très belles sur le papier, mais sur le terrain, ce n'est pas toujours aussi facile. Et je pense que mon temps est écoulé. Donc j'avais quelques exemples de projets, mais on pourra en rediscuter à la pause et peut-être juste pour... Juste pour conclure, voilà, ce que je voulais dire en conclusion, c'est pour Médecins du Monde important de considérer le continuum de soins dans son ensemble pour avoir un impact conséquent et durable sur la mortalité maternelle, qu'il faut prendre en compte les déterminants, bien sûr améliorer les services de santé, mais aussi considérer toutes les barrières qui font que les femmes n'ont pas recours aux services de santé. L'intérêt aussi d'associer une approche par les droits à l'approche de santé publique qui est effectivement essentielle, à la fois pour interroger le cadre législatif et réglementaire, les politiques nationales de santé, qui pourraient avoir un impact négatif sur la santé. On a parlé de la gratuité de la césarienne et pas de l'accouchement et des impacts que ça pouvait avoir, et de considérer les personnes comme actrices de leur santé et détentrices de droits. Enfin, voilà, je pense que ça, c'est un élément important. Prendre en compte les adolescents et évidemment s'associer avec les acteurs locaux, ça, je pense que c'est essentiel. Notamment quand on fait du plaidoyer, on le fait toujours en lien avec les associations de la société civile locale. Merci.